Chapitre 35. Entrée de Cato dans la gloire. Vers l'heure où Catherine de Médicis, au balcon du Louvre, attendait le premier coup de tocsin, Cato, comme on l'a vu, cheminait dans la nuit que sillonnaient de lueurs falotes les lanternes des marqueurs de porte. Elle était paisible et farouche. Son âme primitive ne prévoyait ni obstacle ni danger. C'était tout simple ce qu'elle entreprenait. Et c'était formidable. Parvenue devant l'ouverture d'un profond cul-de-sac, plus noir et plus silencieux encore que les rues avoisinantes, elle s'arrêta et, à demi-voix, se mit à fredonner une complainte qui commençait ainsi. Monsieur le duc de Galilée a pris sa dague et son épée, l'Andérirette. Voici le chevalier du guet, là-bas, qui guette et fait le guet, l'Andérira. Aussitôt, dans le cul-de-sac, se produisit un murmure confus de voix, vite étouffé, un remous d'ombre se mettant en mouvement. Cato se remit en marche. Mais cette fois, elle n'était plus seule. Une troupe étrange la suivait, près de 300 femmes. Toutes celles à qui, dans son cabaret, elle avait donné rendez-vous. Mendiantes et ribaudes, jeunes et vieilles, borgnasses, bancales, boiteuses, hideuses mégères de la cour des miracles ou belles filles d'amour, elles marchaient en troupeau serré, Cato en tête, étrange général de cette armée fantastique. Elles allaient d'un bon pas. Toutes étaient armées, les unes de vieux pistolets, les autres d'épées rouillées, d'autres d'une barre de fer, d'autres d'un simple gourdin, d'autres, enfin, n'avaient que leurs griffes. Elles étaient insouciantes, habituées à des expéditions nocturnes, habituées à voir pendre tantôt l'une, tantôt l'autre, résignées toutes à la potence qui les guettait, comme le chevalier du guet de leurs complaintes, ne tenant guère à leur misérable vie, et enfin ne croyant pas au danger. Comme pour Cato, c'était tout simple ce qu'elles entreprenaient. À diverses reprises, le fantastique troupeau qui piétinait derrière Cato fut arrêté par ces petites troupes qui s'en allaient de porte en porte. Le chef de l'une d'elles voulut interroger Cato et lui barrer le chemin. Mais Cato et ses guerrières le regardèrent d'un air si menaçant que l'homme se recula. Il supposa d'ailleurs que peut-être ces femmes avaient un rôle à jouer dans la grande tragédie. Cato arriva devant le temple et s'arrêta. Derrière elle, son troupeau s'arrêta. Il y eut des rires étouffés, des jurons assourdis. L'impatience de la bataille gagnait les guerrières. Il y avait une petite fille de 16 ans, toute mince et fluette, qui brandissait une arquebuse et disait « Qu'on y touche pour voir ! Un jour, comme maman était malade sur son grabat, il est entré chez nous avec du bon vieux vin, du poulet et 3 écus. » Une fois, il m'a tiré des mains de la prévôté, dit une voix éraillée. Un si beau chevalier, fit une ribaune en agitant une rapière. Voulez-vous vous taire? Dit Cato. Elles se turent. Jamais compagnie de vieux soldats ne se montra aussi disciplinée. Elles se turent, mais maintenant elles frémissaient. L'exaltation du combat montait dans leur rang. Celle qui connaissait Pardeillan, à voix basse, racontait ses hauts faits. Des jurons parcouraient la bande. Cato alors rangea son armée. Au premier rang, toutes celles qui avaient pu se procurer une arme à feu. Puis celles qui avaient une épée, une dague, un bâton. Enfin, derrière, celles qui n'avaient rien. Quant à elle, elle tenait à la main un solide poignard. « Attention, dit-elle, à peine la porte ouverte, suivez-moi. » Il y eut un profond silence. Devant elle, le temple se dressait, terrible et sombre. Tout à coup, au loin, très loin, une cloche se mit à mugir. Puis une autre cloche. « Le tocsin !» dit une vieille mendiante. « Qu'est-ce cela ? » murmura Cato. « Est-ce pour nous ?»« Alerte ! On veut nous piller !» cria une ribaude. « Entendez-vous ? » Cato marcha à la ribaude. « Toi, dit-elle froidement, si tu ne clôt ton bec, je te fais faire connaissance avec ma dague. » Le tumulte grandissait. Les cloches de Paris se mettaient en branle. Des coups d'arquebuse, des coups de pistolet éclataient dans la nuit. Dans la fantastique armée de Cato, il y eut un long frémissement. La panique, un instant, menaça. Mais brusquement, le commencement de terreur se changea en fureur. Au hurlement des cloches, aux cris lointains, aux sourdes détonations, elles se mirent à répondre par des insultes. Les armes furent brandies. Il y eut, pendant quelques secondes, le désordre et le bruit d'une halle où l'on s'invective. Soudain, une porte basse fut ouverte. La Roussotte et Paquette apparurent. « En avant !» hurla Cato. « En avant !» répondit le tonnerre des 300 voix. « Par ici !» cria la Roussotte. Toute la troupe se rua, s'engouffra sous la porte que les deux ribaudes venaient d'ouvrir du dedans. « J'ai les clés !» glapissait Paquette. « Nous avons renfermé les hommes d'armes !» ajouta la Roussotte. « Vite, vite, au cachot !» commanda Cato. « Où est-ce ? » ?»« Par là ! En route !» Elles débouchèrent dans une petite cour qu'elles emplirent de leur tumulte. « Hola ! » tonna une voix. « Que signifie ? Qui êtes-vous, sorcière ? Arrière ! » !»« En avant !» vociféra Cato. « Feu ! Feu !» hurla la voix. 12 arquebuses éclatèrent. 5 des guerrières de Cato tombèrent, mortes ou blessées. Alors, dans cette cour étroite, il y eut des vociférations inimaginables. 12 soldats rangés, en bataille, et commandés par un officier, venaient de faire feu. Voici ce qui s'était passé. Il y avait dans le temple une garnison de 60 soldats. Elle était divisée en 2 groupes qui occupaient 2 postes. La Roussotte et Paquette, après avoir ficelé solidement le gouverneur Montluc, avaient pris 2 trousseaux de clés et étaient descendus en toute hâte. Dans l'une des cours sur laquelle s'ouvrait la grande porte du temple, il y avait un poste. 40 soldats y dormaient. La Roussotte s'approcha de la porte massive et la ferma à double tour. Les soldats ne pouvaient plus sortir, les fenêtres étant grillées. Alors elles coururent ouvrir la porte basse où Cato devait entrer. Malheureusement, il y avait un deuxième poste. Outre ce deuxième poste, il y avait les geôliers, les sentinelles. Un officier qui faisait sa ronde se heurta dans une cour à l'armée des ribaudes. Au bruit de la décharge et de la bataille qui commençait, les soldats du deuxième poste, qui n'étaient pas enfermés, accoururent. Les geôliers s'habillèrent en hâte et descendirent. Les sentinelles se replièrent sur le champ de bataille. En voyant le temple envahi par cette légion de mendiantes hurlantes et vociférantes, ils crurent d'abord à une vision de cauchemar. Mais les coups pleuvaient. Ces femmes en guenilles frappaient et leurs coups portaient. Pendant quelques minutes, ce fut dans la cour un vacarme effrayant que couvrait le tumulte déchaîné sur Paris. Une 20aine de truandes et ribaudes gisaient sur le sol. Mais autant de soldats étaient tombés. Elles bondissaient, poussaient des cris assourdissants, rouges de sang, les cheveux épars, sorcières en délire, enivrées par le sang, enfiévrées, furieuses, hagardes. Les soldats pliés se débandaient, on n'entendait plus que des plaintes sourdes, de rauques imprécations, et finalement, un grand hurlement de triomphe éclata. Les derniers soldats, ou geôliers survivants, s'étaient précipités dans un couloir dont ils poussèrent la porte, affolés, terrorisés par cette irruption inouïe de mégères endiablées. Seuls, un officier, un sergent et un soldat demeurèrent dans un coin prisonniers. « En avant !» rugit Cato. Elle avait reçu 3 coups de dague. Elle haletait, elle était comme une panthère blessée qui cherche sur quel ennemi elle va fondre. Elle chercha des yeux la Roussotte et Paquette. Elle venait de tomber, blessée, mortellement peut-être. Alors Cato eut une malédiction terrible. Elle saisit les clés que la Roussotte tenait dans sa main crispée et, livide, sanglante, échevelée, courut au groupe des 3 prisonniers. « Où est le chevalier de Pardaillan ? » demanda-t-elle au soldat. « Je ne sais pas, » dit le soldat. Cato leva sa dague et frappa un seul coup. Le soldat tomba comme une masse. « Conduis-moi » reprit-elle, haletante, en s'adressant à l'officier. « Ribaude !» dit l'officier. « Crois-tu donc que... » Il n'eut pas le temps d'achever. Cato l'abattit d'un coup terrible, un seul coup, comme pour le soldat. « À toi !» dit-elle au sergent. « J'obéis !» répondit le sergent, pâle comme la mort. « Marche !»« Venez !» Le sergent se mit en marche. Cato le suivit, tamponnant ses blessures, marchant de ce pas souple de la panthère prête à bondir, son poignard rouge incrusté dans sa main. Derrière elle, le troupeau suivait à la débandade. De là montaient des grondements, fusaient des rires aigres, jaillissaient des glapissements, des jurons, toute la joie du triomphe des ribaudes et des truandes sur les soldats, sur le guet. Et au loin, dans Paris, c'était la rumeur énorme des cloches, la clameur faite de milliers de clameurs, sauvages ou désespérés. Le sergent, par une porte, était passé dans une deuxième cour. Là, au fond de cette cour, il y avait une voûte. Le sergent s'enfonça sous la voûte. À gauche, une petite porte basse ouverte. Un escalier tournant commençait là. Cato arrêta le sergent, lui mit la main sur l'épaule et dit « Si tu me trompes, tu es mort !»« Venez !» dit le sergent. « Des lumières !» cria une voix. « Inutile !» reprit le sergent. « La mécanique est éclairée. »« La mécanique ?» gronda Cato. « Oui, là, vous trouverez ce que vous cherchez. » « Marche !» Le sergent commença à descendre l'escalier tournant. Il grommelait et ricanait dans sa moustache grise. « Elle les trouvera, oui. Attends un peu, tu vas les retrouver. Une pinte ou deux de sang, et voilà !» La bande cheminait le long de l'étroit boyau. Cependant, une trentaine des mieux armés, par prudence, étaient demeurés en surveillance près de l'entrée. Au bout de ce couloir, où les tumultes du dehors n'arrivaient plus que comme un bourdonnement lointain, Cato entrevit un étrange spectacle. Dans la lumière fumeuse d'une torche, au bas d'un escalier tournant, il y avait un homme, sorte de gnome court sur pattes, à tête énorme, aux bras nus, musculeux. Cet être bizarre, à grand effort, faisait tourner une manivelle de fer. Cato entendit le grincement de cette manivelle et le souffle rauque du fantastique travailleur. « Qu'est-ce là ? » demanda-t-elle. « La mécanique, » dit le sergent. « Où sont-ils ? » haleta Cato, prise d'un pressentiment terrible. « Là, sous la meule de fer !» dit le sergent, qui éclata de rire. Cato jeta un hurlement. Son poing fermé se leva, siffla dans l'air et s'abattit sur le crâne du sergent qui étendit les bras, tourna sur lui-même et tomba, le nez sur les dalles. Il était mort. Cato enjamba le cadavre. En deux bonds, hurlante, échevelée, dépoitraillée, elle fut sur le gnome qui, tout à sa besogne, ne voyait rien, n'entendait rien. Les 10 doigts de Cato s'incrustèrent sur la nuque du gnome qu'elle arracha de la manivelle. Le grincement s'arrêta net. Le bourreau considéra Cato d'un œil hébété. Cato, après l'avoir saisi par la nuque, l'avait retourné, l'avait collé contre la muraille. Ses doigts maintenant s'incrustaient dans la gorge du gnome. Un silence profond régna dans le boyau. On n'entendait que les deux râles, celui du monstre et celui de Cato. « Grâce !» dit l'homme, stupide d'épouvante, devant tous ces visages de femmes curieuses. « Où sont-ils ? » râla Cato. « Là !» fit le gnome. « Ouvre, ouvre, ou tu es mort !» Elle parlait bas, bredouillait plutôt, comme ivre. Le monstre étendit le bras et montra un fort bouton de métal qui, à 5 pieds au-dessus de la manivelle, bosselait le mur. Cato lâcha le gnome et bondit. Son poing fermé se mit à marteler à grands coups le bouton de fer. Mais dès le premier coup, un déclic avait retenti. La porte de fer s'ouvrit. Et alors, deux hommes, deux fantômes, livides, les yeux élargis par l'étonnement infini, les lèvres retroussées par le rictus des épouvantes surhumaines, apparurent. « Sauvés !» hurla Cato dans un éclat de rire effrayant. Presque aussitôt, les sanglots firent explosion sur ses lèvres. Elle s'appuya à la muraille, défaillante, ravie, terrible et sublime, répétant dans un murmure « Sauvé ! Cato !» Ce cri éclata en même temps, poussé par les deux hommes. Un instant, ils demeurèrent comme pétrifiés devant le boyau empli de femmes qui maintenant riaient, battaient des mains, se félicitaient, jacassaient, pleuraient. Alors ils comprirent. Leur imagination, prompte comme la foudre, reconstitua l'épopée. Cato soulevant les ribaudes et les truandes pour envahir le temple et la bataille et la ruer à travers les sombres couloirs. Et ils comprirent pourquoi, au moment de se frapper, ils avaient entendu de sourdes rumeurs, pourquoi le plafond s'était arrêté net, pourquoi la porte s'était ouverte, pourquoi ils étaient vivants, libres, hors l'épouvantable cauchemar de la mécanique de fer. D'un bond, ils furent près de Cato. D'un même mouvement, ils tombèrent à ses genoux et chacun d'eux, saisissant une de ses mains, y déposa un long baiser. Cato, appuyé au mur, se laissait faire, comme si elle eût compris que cet hommage venant de pareils hommes était la suite toute naturelle du rêve de son âme simple, violente et douce. Le gnome, le monstre, en sautillant sur ses jambes torses, s'était faufilé, avait fui, effaré, stupide de terreur et d'étonnement. Dans les trois couloirs, le silence s'était rétabli et on entendait seulement la sourde rumeur qui venait du monde des vivants en train d'accomplir la grande hécatombe. Le vieux Pardeillan, le premier, sortit de cette extase qui les avait fait tomber à genoux devant Cato. Il se releva, le sourcil froncé, la moustache hérissée, et de cette voix brève, sans expression saisissable qu'on a dans les moments tragiques, « Partons ! Malheur à eux !»« Eux !» C'était dans l'esprit du routier les abominables bourreaux qui avaient imaginé pour son fils et pour lui l'horreur d'un supplice sans nom. « Oui, dit le chevalier en se relevant alors, partons, nous avons quelque chose à faire. » Il avait dit cela d'une voix si calme qu'il était impossible d'y découvrir une émotion. Mais le vieux Pardeillan comprit, lui, car il murmura entre ses dents serrées. « Gare au loup, maintenant que ce lion est déchaîné !» « Allons, viens, Cato !» Cato voulut faire un pas. Brusquement, elle s'affaissa. « Par le ciel !» gronda le chevalier. « Elle est blessée !» Cato sourit. Elle montra du doigt son sein droit ensanglanté. D'un geste rapide, le vieux routier acheva de déchirer le corsage déjà en lambeaux. Le sein apparut. Une plaie large et profonde laissait échapper du sang qui ne sortait déjà plus que goutte à goutte. « Partez !» râla Cato. « Sans toi, jamais !» De nouveau, elle sourit. Ses yeux de bon chien fidèle s'attachèrent sur le vieux routier, puis sur le chevalier. « Tout de même » murmura-t-elle à mots entrecoupés. « Ils ne vous auront pas !» Partez !» Adieu. Cato, ma pauvre Cato. Les deux Pardeillans s'étaient mis à genoux. Ils soutenaient dans leurs bras l'un les épaules, l'autre la tête de la blessée. Elle continuait à sourire. Elle comprenait bien que tout était fini pour elle. Tout à coup, ses yeux fixés sur le chevalier devinrent vitreux. Elle eut une légère secousse. Un souffle léger s'exhala de ses lèvres entrouvertes. Et ce fut ainsi, en souriant et en regardant le chevalier de Pardeillan, qu'elle se raidit dans le suprême effort de la vie qui quitte le corps. « Morte !» gronda le vieux Pardeillan avec un juron de malédiction. « Morte !» répéta le chevalier avec un sanglot terrible chez lui. « Les voilà ! Les voilà !» hurla à ce moment, à l'entrée du couloir, une voix féroce, délirante et tremblante à la fois. Et un homme apparut, haletant, convulsé, hideux à voir, suivi d'une vingtaine de soldats. Et cet homme, c'était Ruggieri qui cherchait sa proie, Ruggieri qui venait chercher le sang nécessaire à la réincarnation, à son rêve de magicien fou furieux.